Gloire à Dieu. C'est toujours une joie d'être dans la présence de Dieu, pouvoir louer, célébrer le Dieu vivant, pouvoir nous rappeler aussi ses promesses, que c'est merveilleux d'avoir cette pleine liberté de louer le Seigneur. Quand nous pensons qu'autour de nous, il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas cette même liberté que nous avons, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants de la fidélité de ce Dieu qui ouvre toujours les portes pour que cette bonne nouvelle soit annoncée là où nous sommes et ailleurs partout dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que ces portes ouvertes soient pour chacun de nous l'occasion de nous rapprocher plus du Seigneur. Il y a quelques semaines, 2 semaines je pense, j'étais là, j'avais parlé sur la vie de victoire de l'enfant de Dieu et j'avais abordé l'état et le comportement du cœur quand il nous arrive de passer par un chemin désertique. Le désert n'est pas quelque chose que nous souhaitons. Je ne souhaite pas le désert. Dans ma vie, vivant un pays où il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas de sécheresse, on ne voit pas tellement le désert. Et des fois, c'est très difficile pour certaines personnes de réaliser, sauf ceux qui ont eu l'occasion de faire des voyages. Mais dans le désert, il n'y a que tristesse, c'est l'étendue, il n'y a pratiquement pas de vie. Face au sable, face à la chaleur, pour nous qui sommes des pays sahéliens, nous connaissons ce qu'est le désert. Le désert, c'est aussi spirituellement un passage où nous, enfants de Dieu, il nous arrive de connaître la traversée. Pas de quitter ici pour aller en Mauritanie, faire la traversée du désert, mais nos vies sont jalonnées de moments de joie, de moments de victoire, de moments de lutte, de moments de paix, de moments où nous connaîtrons toujours des inquiétudes. Et dans la première partie, nous avons vu que Dieu va conduire son peuple à travers le désert pour que le peuple soit préparé et apte à faire face à ce combat qui sera devant lui. On a vu qu'une des raisons que le Seigneur a permis ce détour dans le désert, par le désert, était pour que le peuple puisse se préparer à affronter les Philistins. Ils ont été esclaves pendant de nombreuses années. Ils ont servi, ils n'ont jamais eu l'occasion de combattre. Et pour arriver dans le pays promis, Dieu voulait que le peuple apprenne de lui et s'équipe pour faire face à l'adversité. Parce que si le chemin avait été tout droit, c'était court pour le peuple, pour la traversée, pour arriver dans le pays promis, mais il y avait un ennemi qui était là, qui attendait. Et un peuple, face à un peuple qui n'avait pas combattu, il fallait que ce peuple apprenne à combattre. C'était aussi de passer par cette école, l'école de Dieu, pour être formé. Il fallait que le peuple lui-même découvre qui il était. Dans cette traversée, nous découvrons qui nous sommes réellement. On est deux fois étonné, surpris de voir nous-mêmes notre propre réaction quand nous sommes dans ce désert, quand les choses ne vont plus comme nous le souhaitons. Nous sommes étonnés de voir comment nous pouvons nous étonner nous-mêmes. Parce que entre les choses faciles, quand les choses vont bien et quand les choses ne vont pas bien, eh bien, on a une certaine forme de réaction. Et il fallait que le peuple de Dieu puisse expérimenter ce temps, réagir, laisser sortir cette vieille nature qui fait encore surface en nous, pour que Dieu puisse travailler cette vieille nature et préparer ce peuple-là à atteindre le pays promis. C'est toujours un long chemin à parcourir. C'est toujours quelque chose qui est difficile à comprendre de la part de Dieu. Pas plus que cette semaine, une sœur que je rendais visite, qui avait des moments difficiles dans sa vie, son fils malade, elle-même, une santé précaire, disait, je ne comprends pas Dieu. Et dans ma prière, je disais, mais où es-tu? Et je disais à cette sœur, Dieu est là. Mais dans cette traversée, Dieu te permet de voir sa grandeur et aussi de voir ta réaction toi-même. Parce que si tout allait bien, on allait voir une sœur merveilleuse, victorieuse. Mais face à cette traversée, Dieu te fait voir réellement qui tu es, ce qui peut te permettre de t'approfondir, de rechercher encore à demeurer dans sa présence. Et dans ce même esprit, ce matin, j'aimerais nous inviter à lire un verset dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Nombres, chapitre 13, lisons à partir du verset 17. Nombre chapitre 13, verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui habite. S'il est fort ou faible, s'il est un petit ou un grand nombre, ce qu'est le pays où ils habitent, il est bon ou mauvais, ce que sont les villes, où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y a un point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où était Aïnam, chez Chaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoam en Égypte. Le verset 23, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Le verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des souterraines. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est la vie. Nous voulons, Seigneur, que ce que tu nous as laissé serve pour notre marche, alors que nous sommes dans un autre monde, dans une autre civilisation, dans un autre progrès, dans une autre réalité, nous faisons toujours face à des géants qui se dressent devant nous. Mais Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler que tu es le Dieu de la promesse. Bénis chacun, bénis ta parole, et que ce que tu veux nous dire puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus, amen. On pourrait parler de l'incrédulité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 19, dit que « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ne purent entrer dans le pays de la promesse et ils vont commencer à tourner pendant 40 années dans le désert à cause de l'incrédulité, à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de leur désobéissance et à cause de leur obstination. Nous découvrons dans ce passage la mission d'exploration confiée à ces 12 chefs de tribu. Une mission d'exploration qui était au fait un ordre de Dieu donné à Moïse qui veut exécuter ce que Dieu avait ordonné. Donc on voit déjà que le choix de ces hommes n'était pas un hasard, c'était des hommes équipés, des hommes censés être à la tête de chaque tribu, c'était des hommes assis, des hommes qui avaient déjà la connaissance de pas mal de choses spirituelles et aussi de la vie. pour avoir servi le peuple. La mission de ces hommes était bien claire de la part de Moïse. On a ça du verset 17 jusqu'au verset 20. Moïse leur envoie pour explorer le pays. Un pays où ils devaient rejoindre, parce qu'il y avait la promesse de Dieu là. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays de joie, un pays de paix, un pays d'abondance. Et ces hommes étaient censés devoir, pour permettre d'évaluer la situation avant que le peuple ne s'y engage. Mais nous voyons qu'il y a eu, pendant ces 40 jours de voyage, il y a eu enfin deux rapports. Et ce qui nous concerne ce matin, ce que j'aimerais surtout souligner, c'est le fait d'avoir entendu. Ils sont partis sur l'ordre de Moïse, mais de la part de Dieu, accompagnés d'une promesse de Dieu. Donc, ils devaient être rassurés que ce n'est pas Moïse seulement qui les envoyait, mais Moïse le faisait sur l'ordre de Dieu. Et pouvoir dire, mais puisque Dieu nous envoie, eh bien les choses doivent se passer comme Dieu lui-même a prévu. Mais cela n'a pas été le cas. Dans le premier rapport, ce rapport fut un mélange de réalité et de pessimisme. Ils ont vu, au verset 27, « Nous sommes allés à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Ils réalisent que ce que Dieu avait dit est exact. Mais nous avons aussi vu qu'il y avait des géants. Ils ont rapporté du raisin pour montrer que le pays était un pays prospère et que la parole était vraiment de Dieu, parce que ce qu'ils ont vu, ils ont vu vraiment que c'était cela, ça tenait la route. Est-ce que cela n'aurait pas suffi pour garder la foi et les yeux fixés? Puisque c'est Dieu qui a parlé, ils ont vu de leurs propres yeux que ce pays promis est un pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple qui habite est puissant. Ils commencent à tourner le regard de la promesse de Dieu et de qui est Dieu face à sa parole. Ils ne vont pas s'arrêter seulement à ce que Dieu avait dit en parlant d'un pays où coule le lait et le miel, autrement dit un pays d'abondance, un pays où ils seront heureux. Mais leurs yeux ont commencé à regarder les géants. Le peuple qui habitait était un peuple de géants. Les villes sont fortifiées, mais nous avons vu les enfants d'Anak. Ce mais fatidique, les mais qui peuvent tout faire capoter, ce mais était là. Nous avons vu que ce que Dieu a dit est vrai, mais nous avons aussi vu combien cela souvent nous amène à échouer face au projet, face au plan, face à la promesse de Dieu pour nous. Dieu a promis, mais ma situation est telle que je ne pense pas que c'est possible. Dieu a dit que, mais je souffre tellement que mon regard est sur la souffrance plutôt que la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit dans le texte que le peuple a répété plusieurs fois, nous y avons vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Leur regard n'est pas resté sur la promesse de Dieu, mais ils ont commencé à voir les choses qui les ont effrayés. Ils ont commencé à voir l'impossible et à se dire, nous serons incapables de combattre. Ils ont commencé à voir le négatif en décrivant ce pays. Ils ont commencé à voir la puissance physique, le comportement de ces hommes, au lieu de s'arrêter sur la promesse de Dieu. Très souvent, c'est là où nous échouons, parce que au lieu que nous ayons toujours les yeux levés vers le Dieu de la promesse, celui qui a dit et qui accomplit toujours sa parole, celui qui promet et qui réalise concrètement ce qu'il a dit pour nous, nos yeux commencent à regarder. Est-ce que cela ne ressemble pas à un Pierre? À quelque part Pierre qui avait eu entendu la voix de Jésus, lui disait « Pierre, viens !» et qui a commencé à marcher sur l'eau. La Bible nous dit que quand Pierre a regardé tout autour de lui, il a commencé à sombrer. Plus nos yeux sont levés vers le Seigneur, et plus notre victoire est assurée. Mais plus nos yeux se tourneront vers les circonstances de notre vie, et plus notre échec est assuré. Parce que les yeux de la chair ne peuvent pas voir ce que l'Esprit veut nous dire. Or, l'Esprit de Dieu avait conduit Moïse à envoyer ces hommes qui étaient à la tête pour pouvoir revenir avec un message qui allait encourager le peuple à continuer à croire en ce Dieu de la promesse, en ce Dieu de miracles, parce qu'ils avaient vu déjà la main de Dieu. Mais ils ont commencé à oublier. Quand le pharaon et tous ceux qui étaient derrière suivaient, ils ont constaté que le Dieu de la parole, ce Dieu qui a dit « Allez explorer », avait déjà anéanti le pharaon et tous ses soldats. Mais là, ils ne voient que ce que leurs yeux, selon la chair, pouvaient voir. Ce matin, frères et sœurs, laissons Dieu envahir nos cœurs, nos pensées, et que nos yeux spirituels restent constamment fixés sur lui. Et plus nous resterons fixés sur Jésus, et plus nous marcherons dans la victoire. Parce que ce qui nous entoure nous fera toujours peur. Ce qui est à côté de nous va toujours nous impressionner. Mais quand nous nous détachons nos regards de ce qui est terrestre pour fixer sur le spirituel, alors nous comptons et nous nous appuyons sur le Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, fixons nos regards vers lui. Mais béni soit le Seigneur, parce que si le rapport était resté seulement avec les 10 personnes qui sont revenues et qui ont vu plutôt l'ennemi, l'adversaire, fort, puissant, eh bien, ça aurait été une mission qui aurait échoué. Mais il y avait 2 personnes. Encore comme quoi Dieu ne s'arrête pas au nombre. Le nombre n'influence pas le Seigneur. Ce qui influence le cœur de Dieu, c'est ceux qui mettent en pratique, ceux qui s'attachent, ceux qui se reposent en lui et qui comptent sur lui. Il y avait un Caleb et un Josué. Eux n'ont pas regardé de la même manière que les 10 autres. Ils ont regardé le Dieu Tout-Puissant. Ils ont contemplé les merveilles de Dieu. Ils ont reconnu la gloire et la puissance de Dieu. Ils ont reconnu la main de Dieu. Une main qui vient relever dans n'importe quelle situation que ce soit. Une main de Dieu qui vient libérer de n'importe quel esclavage que ce soit. Caleb, Josué ont regardé autrement. Ils étaient les 12 ensemble. 10 ont vu la faiblesse et les 2 autres ont vu la victoire. Caleb fit taire le peuple, nous dit la parole. Et je pense qu'il y a des moments où il nous faut faire taire la voix de l'incrédulité. Cette voix qui vient nous dire « Non, ce n'est pas possible. » Tu as effectivement reçu la parole de Dieu, la promesse de Dieu, mais tu sais, ce n'est pas pour toi aujourd'hui. Ça a été pour le passé. C'est pour d'autres qui sont dans d'autres continents, qui n'ont rien d'autre que de croire à la promesse de Dieu. Caleb et Josué avaient les yeux fixés sur leur Seigneur. Caleb fit taire le peuple. Qui est ce peuple aujourd'hui qui nous parle? Et parce que nous écoutons, cela nous décourage. Parce que nous écoutons, cela nous paralyse. Parce que nous écoutons, cela nous arrête. Au lieu que nous puissions avancer avec le Seigneur, Caleb emploie le langage de la foi. Et il dit, montons. Oh, j'aime cela. Montons. Il voit pas, il n'entend pas ce que les autres disent. Mais il a à cœur de saisir les promesses de Dieu. Et il dit, montons. Montons. Allons sur cette montagne. Ce Dieu qui nous envoie est le Dieu de la victoire. Nous marcherons dans la victoire. Nous réussirons. Parce que une seule personne avec Dieu vaut mieux que 10 000 personnes avec une armée humaine. Parce que Dieu est ce Dieu tout-puissant qui a tout créé. Et quand nous faisons taire les voix de l'incrédulité, la voix qui peut nous paralyser, alors nous pouvons ensuite aller contre cette victoire. Montons, emparons-nous, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous, nous y serons vainqueurs. Quelle parole de foi, quelle parole d'espérance pour un peuple qui a connu la main de Dieu à maintes reprises. Et qui, à un moment donné, commençait à trembler devant des hommes, de se souvenir qu'ils ont la victoire parce que Dieu est à leur côté. Et ce matin, laissez-moi vous dire que nous avons besoin de monter. Montons sur la montagne. Montons vers le Seigneur. La plaine, c'est le monde. Mais plus nous montons, plus nous allons vers notre Père. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Celui qui a autorité sur les éléments de ce monde. Celui qui a tout pouvoir face à ta situation, face à tes combats. Montons et emparons-nous. Ce sont des paroles de foi. Que Dieu augmente ma foi ce matin. Et que face à mon désert, face à mes situations, je puisse me dire, fais taire les paroles, mais monte vers ton Seigneur. Quand il y a l'incrédulité, cela engendre en nous des murmures, la désobéissance, et cela ferme la porte de bénédiction de Dieu. Le peuple, après le premier rapport, a commencé à murmurer contre qui ? Moïse, nous dit la parole de Dieu. Le rapport n'était pas un rapport qui allait encourager, mais qui mettait un découragement dans la vie de ces hommes. Et ce qui va suivre, c'est la désobéissance. Et plus nous écoutons les mauvais conseillers, et plus nous commencerons à murmurer contre Dieu. Comme cette personne dont je citais tout à l'heure, qui disait, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi je connais des moments difficiles? Pour elle, la vie devait être belle tous les jours. Mais elle a dû faire face à une réalité de la vie. Montons ensemble dans la présence de Dieu. Ils n'étaient pas très nombreux. Ils étaient plutôt minoritaires. Mais cette minorité avait compris, avait réalisé que Dieu avait parlé et que le Dieu de la promesse était celui sur qui il pouvait compter. Au chapitre 14, versets 6 à 9, tous deux vont exhorter, insister par des paroles d'encouragement, de foi, à garder leurs yeux fixés sur l'Éternel. Frères et sœurs, fixons nos yeux vers le Seigneur. Il y a ce chant qu'on a encore chanté ce matin, « Vers Jésus, lève les yeux. » Et plus nous leverons les regards vers Jésus, et les choses de ce monde pâliront peu à peu. Mais quand nos yeux sont fixés sur les circonstances de notre vie, cela ne fera que nous asseoir et nous arrêter, alors que nous avons un Dieu de la promesse. Pour ceux qui sont venus semer le doute, semer la crainte, le découragement, l'incrédulité, ceux qui sont venus conduire le peuple à être privé du repos dans le pays de la promesse, c'était une attitude triste, lamentable. Caleb et Josué ne pouvaient pas se taire. Leur désir était de conduire ce peuple vers le pays promis. Notre désir, c'est d'aller vers notre patrie céleste. Mais plus nous lutterons, nous remporterons des victoires, et plus nous hériterons le royaume de Dieu. On voit là que le cœur de l'homme est bien lent à croire et à admettre que la puissance de Dieu ne peut pas se mesurer avec l'intelligence humaine. Ils ont raisonné selon leur intelligence. Notre intelligence nous joue souvent des tours. Laissons notre intelligence de côté et soyons comme des petits-enfants. Du reste, c'est ce que Jésus dira en comparant le royaume de Dieu au tout petit. Notre raisonnement nous empêche de voir la gloire de Dieu. Notre intelligence, parce qu'on a appris, on devient carré et on n'accepte pas parce que ça n'entre pas dans la logique. Au fond, quand on veut voir ces hommes, ils ont regardé selon leur logique, leur intelligence. Ils ont constaté, c'était une réalité pour eux. Mais il y avait une autre réalité qui était la main de Dieu. Ce que Dieu promet par sa main, cela s'accomplit. Alors, prenons cela comme exemple alors que nous sommes en marche avec le Seigneur. Et demandons au Seigneur que chaque jour de notre vie, nous ayons les regards fixés sur lui. Que ce monde ne nous arrête pas. Que des paroles ne nous arrêtent pas. On a, quand on est dans le moment difficile, on a ce qu'on peut comparer aux amis de Job, qui ont toujours quelque chose à nous dire. Mais est-ce que c'est toujours bien pour nous augmenter notre foi, ou c'est pour nous ralentir alors que on avait décidé d'avancer avec le Seigneur? Ce matin, recevons cette parole de Caleb et Josué. Montons, emparons-nous, nous y serons vainqueurs. Mon frère, ma sœur, monte vers le Seigneur. Va vers ton Seigneur. Fais appel à Christ. Empare-toi de ses promesses. Saisis ce que sa parole te dit. Tu retrouveras la victoire et tu verras que Dieu est vrai. Que son nom soit béni et qu'à l'exemple de ces hommes qui ont lutté, qui ont persévéré, eh bien nous aussi nous sachions lutter. Persévérons, allons jusqu'au bout. La victoire appartient à Jésus. Il est notre victoire. Amen. Seigneur, ce matin, ton peuple a connu le désert. Ton peuple a marché dans le désert. Ce même peuple qui a vu ta main à l'œuvre, face à ce que les yeux de la chair ont vu, ont commencé à douter de toi. Je prie ce matin que personne ne doute de ta promesse, mais que nous puissions nous appuyer sur toi, que nous ayons confiance que le Dieu de la parole est le Dieu juste et bon, et que ce que tu nous promets, cela s'accomplit pour nous. S'il y a des cas de maladie, ta promesse est que tu es l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Que nous puissions nous emparer de cette promesse. Que nous puissions saisir ta promesse ce matin. S'il y a une souffrance quelconque, s'il y a un découragement dans la vie d'un homme ou d'une femme ce matin, tu es l'Éternel qui vient nous rencontrer pour nous relever, pour nous fortifier et pour nous rappeler que tu es avec nous. Même dans le désert, tu es là. Et que tes promesses sont pour nous. Donne-nous, Seigneur, ce matin, à ne pas baisser notre regard, mais à lever nos yeux vers toi, à te contempler dans ta magnificence. Tu es digne d'être glorifié. Bénis ton Église. Nous voulons aller plus loin avec toi. Même en traversant le désert, tu es là. Tu es là. Comme tu as été dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego, tu es avec nous. Et c'est une réalité. Fais-nous vivre cela dans notre traversée, dans notre moment de détresse, dans notre moment de tristesse. Dans notre moment où nos larmes coulent, dans notre moment où la nuit est blanche, dans notre moment où il nous semble que nous sommes seuls, Seigneur, tu es là et nous voulons te bénir pour ta présence. Rassure chacun de tes bienfaits au nom de Jésus.